Chapitre 3 Entraînement. Le grand couloir se révéla aussi glacial que le salon de la chaire d'Amirlin, et aussi prodigue en courant d'air, si le terme convenait encore pour des bourrasques assez violentes pour faire onduler les tapisseries accrochées au mur de marbre blanc. Sur leur support, les lampes produisaient une lumière vacillante, comme si elles risquaient à tout instant de s'éteindre. À cette heure de la journée, les novices devaient être au réfectoire pour le petit déjeuner. Les acceptaient aussi en principe. Du coup, Moiraine et Suan avaient les couloirs pour elles seules. Marchant sur le chemin de couloirs bleus, la couleur d'un des ajats, elles évitaient d'avoir les pieds gelés par les carreaux du sol. Trop bouleversée pour parler, Moiraine entendait à peine les sonneries de cor, qui continuaient pourtant à pénétrer entre les murs de la tour. S'engageant dans un couloir où le chemin vert reposait sur des carreaux blancs, les deux amis passèrent devant un autre corridor, dans lequel s'alignaient des lampes et de riches tapisseries. Ici, les parties visibles du sol étaient bleues et jaunes, alors que le chemin présentait des motifs gris, marron et rouge. Dans les quartiers spécifiques de Naja, sa couleur prédominait, et les six autres n'étaient pas nécessairement présentes. Mais dans les parties communes de tous les ajats, tous étaient représentés dans des proportions strictement égales. Comme s'ils cherchaient toujours à fuir la réalité, l'esprit de Moiraine vagabonda. Pourquoi s'était quitté, puisque certains ajats étaient bien plus grands que d'autres? Fallait-il comprendre qu'ils avaient tous eu un jour la même taille? En principe, c'était impossible, puisque chaque nouvel Aes Sedai choisissait librement son obédience. Pourtant, tous les quartiers étaient d'une surface rigoureusement identique. « Tu veux prendre le petit déjeuner ?» demanda Suan. Moiraine en sursauta de surprise.
« Manger ? Suan, je ne pourrais rien avaler. »
« Eh bien, je n'ai pas faim non plus. Mais je t'aurais tenu compagnie si tu avais pris quelque chose. Je vais retourner dans ma chambre et dormir un peu. Si j'y arrive. Dans 2 heures, j'ai une classe de novices. Et si les sœurs ne reviennent pas, ça ne sera pas la seule. Les novices ne vont quand même pas manquer les cours pour une vulgaire bataille ou parce que... »
Moiraine refusa de préciser sa pensée à voix haute. Si les sœurs ne revenaient pas, elles manqueraient des cours aussi. Pour l'essentiel, les acceptées étudiaient seules. Mais elle avait une leçon particulière avec Meilin Sedai et une autre avec Larel Sedai.
Dormir, c'est gaspiller du temps que nous n'avons pas, dit Suan. Il faut nous entraîner pour l'ultime épreuve. Il nous reste peut-être un mois, mais qui peut savoir si ce n'est pas pour demain?
Nous n'en savons rien. Mais Rehan Sedai pense que c'est pour bientôt, sans aucune certitude.
Suan ricana lourdement. Quand elle était encore novice, les sœurs l'avaient forcée à châtier son langage, fortement imprégné par l'argot des quais et des marins. Le résultat était convaincant, mais on ne se refaisait jamais entièrement, et Suan conservait certaines aspérités très souvent réjouissantes. Moiraine n'aurait pas songé à s'en plaindre, car cette truculence faisait partie de la personnalité de son ami.
« Quand Meréane dit que ça approche, l'épreuve est prévue dans le mois qui suit, tu le sais très bien. Moiraine, nous devons nous préparer. »
La jeune acceptée soupira. Elle doutait de pouvoir dormir, pour être franche, mais de là à se concentrer correctement, et pour s'entraîner, c'était indispensable.
Comme tu voudras, Suan.
Leur amitié, déjà étonnante en soi, avait réservé une autre surprise aux deux jeunes femmes. Dans cette relation, c'était Suan, la fille de pêcheur, qui donnait le la, et Moiraine, l'héritière d'une famille noble, qui entonnait la chanson. Bien entendu, au sein de la Tour Blanche, les différences de classe ne jouaient aucun rôle. Deux filles de mendiants avaient atteint le poste suprême, des chères d'Amirlin, oui. Sans parler d'une longue série de filles de marchands, de fermiers ou d'artisans. On comptait même 3 dirigeantes dont le père était colporteur. En revanche, une seule avait un roi pour géniteur. Longtemps avant de partir pour la Tour Blanche, Moiraine avait appris à évaluer les qualités des gens. Au Palais du Soleil, on se lançait dans cet exercice dès qu'on était assez grand pour marcher. Suan était née pour commander, ça crevait les yeux. La laisser prendre les choses en main était à la fois plaisant et naturel.
« Je parie qu'il ne te faudra pas 100 ans après avoir reçu le châle pour devenir membre du hall de la tour, et à peine 50 de plus pour être nommé chère d'Amirlin. »
Ce n'était pas la première fois que Moiraine tenait ce discours, et elle obtint la même réaction que d'habitude.
« Ne me porte pas la poisse !» s'écria Suan, sincèrement outragé. « J'ai bien l'intention de sillonner le monde, peut-être en découvrant des régions qu'aucune sœur n'a jamais vues. Je voyais souvent des bateaux entrer dans le port de Théar, les cales pleines de soie et d'ivoire de Chara. Chaque fois, je me demandais si un marin avait eu le cran de sortir des ports là-bas. Moi, j'aurais tenté l'aventure. »
Une détermination très semblable à celle de Tamra s'afficha sur le visage de Suan.
« Un jour, mon père a navigué jusqu'à l'embouchure de la mer des tempêtes.
À force de regarder vers le sud, me demandant ce qu'il y avait au-delà de l'horizon, j'en oubliais de remonter nos filets. Un jour, j'aurai la réponse. Et l'océan d'Arit, qui sait ce qui attend ceux qui auront le courage de le traverser? Des pays étranges aux coutumes fascinantes, des villes aussi grandes que Tarvalon et des montagnes aussi hautes que la colonne vertébrale du monde. Essaie d'imaginer, Moiraine. Oui, fais un effort.
Moiraine étouffa un sourire. Suwan s'emballait dès qu'elle évoquait ses futures aventures. Encore qu'elle ne les aurait jamais appelées ainsi. Quand on utilisait ce mot en sa présence, elle ne manquait jamais de rappeler que les aventures étaient bonnes pour les légendes et les livres. Dans la vie, il s'agissait de tout autre chose. Quoi qu'il en soit, dès qu'elle aurait reçu le châle, elle entendait s'envoler à la vitesse d'une flèche qui jaillit d'un arc. À partir de là, les deux amis ne se verraient pas plus souvent que 2 fois tous les 10 ans, dans le meilleur des cas. Cette idée attristait Moiraine. Pourtant, elle ne doutait pas que ses propres prédictions sur le destin de Suwan se réaliseraient. Pour ça, elle n'avait pas besoin du don de feu Jitara. Non, elle ne devait surtout pas penser à la gardienne des chroniques et à tout le reste. Alors que les deux amis, au gré d'une autre intersection, passaient devant un escalier menant à l'étage inférieur, Suwan recouvra son équanimité coutumière et entreprit d'étudier Moiraine du coin de l'œil. Dans ce secteur de la tour, le sol était vert clair et le chemin de couloir jaune foncé. Alors que rien ne décorait les murs de marbre blanc, les lampes n'étaient pas en or. Rien de surprenant dans une zone plutôt réservée aux domestiques.
« Tu tentes d'éviter le sujet, pas vrai ?»
lança soudain Suwan.
« Quel sujet ?»
demanda Moiraine avec un petit rire.
« L'entraînement ou le petit déjeuner ? Tu sais très bien de quoi je veux parler. Alors, que penses-tu de tout ça ?»
Le rire mourut dans la gorge de Moiraine. Elle n'avait pas besoin d'un dessin pour savoir ce qu'était ce « tout ça ». Comme de juste, il s'agissait des éléments auxquels elle ne voulait surtout pas penser.
« Il renaît, je le sens. Le dragon prend sa première inspiration. »
La voix de Jitara résonnait encore dans sa tête. Frissonnant de nouveau, elle ne s'abandonna pas une seconde à l'illusion que c'était à cause du froid. Depuis plus de 3000 ans, le monde attendait, ou plutôt redoutait, que les prophéties du dragon se réalisent. En même temps, nul n'ignorait que ces prédictions étaient le seul espoir de l'humanité. Et voilà qu'un garçon allait bientôt naître, si ce n'était pas déjà fait, pour que se joue enfin le dernier acte d'une très ancienne tragédie. Sur les pentes du pic du dragon, à l'endroit où il était mort jadis, le dragon se réincarnerait, ainsi qu'il était écrit depuis des millénaires. Lors de la guerre des ténèbres, 3000 ans plus tôt, le ténébreux était passé très près de se libérer et d'envahir l'univers des vivants. La dislocation du monde avait mis un terme au conflit, certes, mais le prix s'était révélé exorbitant. Des destructions dépassant l'imagination, des bouleversements incroyables, l'humanité réduite à une horde de réfugiés en haillons. Avant que le combat pour la survie cède la priorité à la volonté de reconstruire des cités et de refonder des nations, il avait fallu des siècles et des siècles. La naissance du dragon impliquait que le ténébreux s'évaderait de nouveau de sa prison. C'était inévitable, puisque le sauveur devait affronter le père des mensonges lors de Tarmon Gaidon, l'ultime bataille. L'avenir du monde reposait sur les épaules du dragon. Sur ce point, les prophéties étaient très claires. En revanche, elles ne disaient pas qui gagnerait cette dernière guerre. Le dragon risquait de perdre, mais ce n'était peut-être pas le plus grave. Pour mener son combat, il devrait canaliser le Saïdin, à savoir la moitié masculine du pouvoir de l'unique. Cette simple idée terrorisait Moiraine. Depuis la dislocation, le Saïdin portait l'indélébile souillure du ténébreux. Désireux de canaliser le pouvoir, certains hommes, de parfaits autodidactes, parvenaient à une certaine maîtrise et réussissaient à survivre, ce qui n'était pas un mince exploit. À titre d'exemple, une naturelle sur 4 seulement se sortait vivante de son initiation solitaire. Parmi les rescapés, une poignée d'hommes provoquaient des guerres parce qu'ils prétendaient être le dragon réincarné. Moins ambitieux que ces imposteurs, d'autres naturels tentaient de se faire oublier, en menant une existence banale. Mais s'ils n'étaient pas capturés et conduits à Tarvalon pour y être apaisés, en d'autres termes coupés à jamais de la source authentique, tous ces mâles finissaient par sombrer dans la folie. Que cela prenne des mois ou des années, c'était au bout du compte inévitable. Ainsi, des démons capables de contrôler le pouvoir de l'unique, la force qui faisait tourner la roue du temps et commandait à l'univers tout entier, se retrouvaient en liberté dans quelques coins du monde. Les récits et les légendes décrivaient en détail les atrocités commises par ces faux dragons. Mais selon les prophéties, l'avènement du vrai dragon provoquerait une nouvelle dislocation du monde. Dans ces conditions, sa victoire serait-elle vraiment préférable à celle du ténébreux? Après la première dislocation, il était resté des survivants pour reconstruire ce qui avait été rasé. S'il triomphait, le ténébreux laisserait un charnier derrière lui.
De toute façon, les prophéties se souciaient comme d'une guigne des désirs d'inacceptés. Pareillement, elles restaient sourdes aux suppliques des nations.
Ce que j'en pense? Eh bien, la chair d'Amerlin nous a ordonné de ne pas en parler, donc...
Siouan n'avala pas la couleuvre.
Elle veut que nous n'en parlions à personne. C'est différent.
Puisque nous savons tout, rien ne nous empêche d'en discuter entre nous. Siouan se tut soudain.
Déboulant d'un couloir latéral, une domestique replète, la flamme de Tarvalon brodée sur la poitrine, venait d'apparaître juste devant les deux amis. Les croisant, la servante leur jeta un regard soupçonneux. Parce qu'elles avaient l'air vaguement coupables? C'était bien possible.
Sans doute parce qu'ils refusaient de se compromettre plus que nécessaire avec les Aes Sedai, les serviteurs regardaient ailleurs dès qu'ils risquaient d'en apprendre trop sur les faits et gestes des acceptés et des novices. Les servantes, au contraire, n'en rataient pas une miette et allaient même jusqu'à espionner les Aes Sedai.
Le tout est d'être prudente,
souffla Siouan lorsque la femme fut trop loin pour pouvoir l'entendre. Pourtant convaincue que Moiraine et elle avaient le droit d'évoquer librement le sujet délicat, Siouan ne le mentionna plus jusqu'à ce que les deux jeunes femmes soient entrées dans le quartier des acceptés. Plusieurs galeries à la balustrade de pierre, formant une sorte de puits, entouraient un tout petit jardin. À cette époque de l'année, seuls quelques arbustes à feuilles persistantes rompaient la monotonie de la neige. En dépit de son statut, tout accepté qui sortait un peu trop du droit chemin risquait de se retrouver en train de déblayer la poudreuse avec une pelle. Convaincus que les corvées étaient excellentes pour la formation du caractère, les sœurs ne reculaient jamais devant des punitions imaginatives. Mais ces derniers temps, aucune acceptée n'avait éveillé leur ire à ce point. Les mains sur la balustrade, Moiraine contempla le ciel hivernal, 6 étages au-dessus de sa tête. Ici, le son des cors était plus fort, et l'odeur de fumée vous prenait à la gorge. Cette section des quartiers permettait de loger plus d'une centaine d'acceptés. Et il y avait un second puits qui offrait les mêmes capacités d'hébergement. À l'aune de l'ultime prédiction de Jitara, les chiffres n'avaient peut-être plus d'importance, mais ce n'était pas la première fois que Moiraine y pensait, et il restait imprimé comme au fer rouge dans son esprit. La tour pouvait accueillir 200 acceptés, mais la deuxième section des quartiers était fermée depuis des lustres, et dans la partie encore ouverte, moins de 60 chambres avaient une occupante. Dans le même ordre d'idées, les quartiers des novices, également doubles, proposaient plus de 400 cellules quasiment monastiques. Un des complexes était fermé, et l'autre abritait au maximum une centaine de jeunes femmes. En des temps reculés, avait lu Moiraine, les novices et les acceptés avaient dû s'entasser à 2 par chambre. À l'époque, la moitié des filles inscrites dans le registre des novices allaient jusqu'à l'épreuve permettant d'obtenir la bague au serpent. À présent, moins d'une vingtaine des candidates actuelles atteindraient ce niveau. Construite pour abriter 3000 sœurs, la Tour Blanche en hébergeait seulement 423. 800 autres environ sillonnaient le monde, assurant la présence de l'ordre dans une multitude de pays. Là encore, des chiffres douloureux. Même si aucune Aes Sedai n'aurait dit la vérité à voix haute, la Tour Blanche déclinait à une vitesse inquiétante. Prudente, Moiraine n'aurait jamais fait ce constat devant une sœur, mais il fallait regarder la réalité en face. La tour se dégradait, et l'ultime bataille approchait à grands pas.
« Tu t'inquiètes trop, » dit gentiment Siouan. « Tu sais ce que disait toujours mon père ? Change tout ce qui a besoin d'être modifié, mais apprends à vivre avec ce que tu ne peux pas changer. Sinon, impossible d'échapper aux brûlures d'estomac. Mais ça, c'est de moi, pas de lui. »
Elle frissonna théâtralement, puis enroula les bras autour de son torse.
« Si on allait un peu au chaud, ma chambre est la plus proche. « Suis-moi. »
Moiraine emboîta le pas à son ami. La tour apprenait aux novices et aux acceptés à vivre avec ce qu'elle ne pouvait pas changer. Mais dans certains cas, l'enjeu était si important qu'il fallait essayer, même si on pensait échouer. Enfant, c'était une des leçons les plus importantes qu'elle avait apprises. Toutes les chambres des acceptés se ressemblaient, à quelques détails près. Plus larges au fond qu'à l'entrée, elles arboraient des murs lambrissés de bois sombre. Les meubles très ordinaires, carrément misérables même aux yeux d'une sœur, offraient un confort tout relatif. Chez Siouan, un tapis du tarabone en couleurs passées, des rayures bleues et vertes, couvrait le sol devant le coin réservé aux ablutions. Là non plus, les accessoires n'avaient rien de luxueux, et les acceptés étaient pourtant incités à en prendre le plus grand soin. Briser une aiguière ou une cuvette n'était pas rien, et quand ça arrivait, mieux valait pouvoir fournir une solide explication. La petite table sur laquelle reposaient 4 livres et les 2 chaises au dossier rembourré aurait été à leur place dans la salle commune d'une ferme. En revanche, le lit de Siouan, avec ses couvertures en désordre, était assez large pour appartenir à des paysans relativement prospères. Une petite armoire complétait ce mobilier rustique qu'aucune sculpture ne venait ornementer.
Lorsqu'elle avait quitté sa morne cellule de novice, Moiraine avait pourtant eu le sentiment d'emménager dans un palais. Même si la plus petite pièce de ses appartements, au Palais du Soleil, était deux fois plus grande que son nouveau fief, elle s'était réjouie de disposer de tant d'espace. Sans parler de la magnifique cheminée en pierre grise, une merveille qui valait tout le luxe du monde dans les conditions ambiantes. En supposant, bien sûr, qu'on ne soit pas obligé de s'en tenir trop loin. Suan prit trois bûchettes dans sa caisse à bois presque vide. Si les serviteurs alimentaient en combustible les Aes Sedai, les acceptés devaient se débrouiller seuls, les mit dans la cheminée, s'empara d'un tisonnier et râla d'abondance, en constatant qu'elle n'avait pas réussi à préserver les braises la veille au soir. Trop pressée de répondre à la convocation de la chair d'Amirline, elle ne les avait pas recouvertes d'assez de cendres, pour les empêcher de se consumer totalement. Alors que son amie plissait curieusement le front, Moiraine sentit de nouveau l'étrange fourmillement, puis elle vit l'aura du Saïdar envelopper fugitivement la silhouette de Suan. À condition d'être assez près, toute femme capable de canaliser s'apercevait qu'une de ses collègues manipulait le pouvoir. Mais le fourmillement était inhabituel. Quand deux futurs Aes Sedai s'entraînaient très souvent ensemble, le phénomène pouvait se produire, mais il disparaissait au fil du temps. Entre Suan et Moiraine, rien de semblable ne s'était produit, peut-être parce que leur amitié était d'une intensité hors du commun. Dès que l'aura se fut dissipée, les trois bûchettes s'embrasèrent joyeusement. Moiraine s'abstint de tout commentaire, mais Suan se justifia comme si elle venait de subir un sermon.
« J'avais trop froid pour attendre. De toute façon, souviens-toi du cours d'Akarine, il y a deux semaines. Il faut connaître les règles à la perfection et savoir vivre avec, avant de déterminer lesquelles on peut violer, et dans quelles circonstances. Ça veut bien dire qu'on peut parfois passer outre le règlement. »
Dotée d'un œil d'aigle, dès qu'il s'agissait de repérer les élèves distraites, Akarine, une sœur de l'Aja Marron, parlait ce jour-là du statut des Aes Sedai, pas des droits et des devoirs des acceptés. Moiraine ne jugea pas utile de le rappeler, car Suan n'avait de toute façon pas besoin d'encouragement pour violer les règles. Bien entendu, elle respectait les plus importantes. Elle n'avait jamais tenté de s'enfuir, ni manqué de respect à une sœur, et il ne lui serait pas venu à l'esprit de voler. En revanche, elle avait un goût prononcé pour les farces. Moiraine aussi, à vrai dire, comme presque toutes les acceptées et une bonne partie des novices. Quand on étudiait d'arrache-pied, quasiment 100 jours de détente, se livrer à d'innocentes plaisanteries était un bon moyen de relâcher un peu la tension. Sauf quand elle méritait des punitions, les acceptés n'avaient pas d'autre corvée que l'entretien de leur chambre et de leur personne. Mais on leur demandait de travailler 10 fois plus durement que les novices. Pour ne pas se briser comme un œuf qu'on laisse tomber par terre, elles avaient besoin de distraction. Moiraine et Suan ne s'étaient jamais rendus coupables de malveillance. Laver avec du sumac vénéneux la chemise de nuit d'une acceptée Oni ne comptait pas, bien entendu. Elaïda avait fait un calvaire de leur première année de noviciat, imposant en ce qui les concernait des critères auxquels personne n'aurait pu se conformer. L'année suivante, alors qu'elle avait obtenu son châle, avait été pire, jusqu'à ce qu'elle quitte enfin la tour. Les autres farces des deux jeunes femmes avaient été plus inoffensives encore. Cela dit, quand la cible était une Aes Sedai, la blague la plus enfantine pouvait valoir à son auteur de très sévères punitions. Parmi leurs exploits, Moiraine et Suan gardaient une tendresse particulière pour leur intervention sur le plus grand bassin du jardin aquatique. Une nuit, l'été précédent, elle avait tout simplement rempli de grosses truites vertes. Si cet exploit figurait à une place de choix sur leur palmarès, c'était pour deux raisons. Primo, ils n'avaient rien eu de facile. Et secondo, personne n'avait jamais établi leur culpabilité. Certaines sœurs les avaient accablés de regards soupçonneux, mais sans jamais trouver de preuves pour les confondre. Par bonheur, les soumettre à un interrogatoire serré n'avait pas été possible, en vertu de leur statut d'accepté. Une chance, pour être honnête. Même si le remplissage du bassin n'aurait pas suffi à leur valoir une séance de badine dans le bureau de la maîtresse des novices, être sorti de la tour en pleine nuit pour acheter les truites aurait été une toute autre affaire. Entendant Suan discourir sur les règles et leurs violations, Moiraine espéra que son amie ne préméditait pas une facétie. Dans leur état de fatigue, elles étaient sûres de se faire prendre la main dans le sac.
« Tu commences ou je m'y colle ?»
demanda Moiraine. Avec un peu de chance, l'entraînement détournerait Suan de ses projets douteux.
« Tu as davantage besoin d'exercice que moi. Ce matin, nous nous concentrerons sur toi. Idem cet après-midi et ce soir. »
Moiraine fit la grimace, mais elle ne put rien objecter. L'épreuve qui permettait d'obtenir le châle consistait à créer 100 tissages, également appelés des flux, dans un ordre bien précis, en étant soumise à une très grande tension. Tout au long du processus, il était essentiel de rester parfaitement calme. Bien entendu, les candidates ignoraient ce que serait cette tension, mais elles se doutaient bien qu'on tenterait de briser leur concentration et de les faire sortir de leur gond. Durant leur séance d'entraînement, les deux amis jouaient les trublions à tour de rôle. Avec sa facétie naturelle, Suan excellait dans l'art de perturber sa compagne et de lui faire monter la moutarde au nez. Quand on s'énervait trop, il devenait impossible de rester en contact avec le Saïdar. Même après 6 ans d'études, Moiraine avait besoin de sérénité pour canaliser le pouvoir. Du genre à ne se laisser distraire par rien, Siouan avait sur ses nerfs un contrôle total. Moiraine entra en contact avec la source authentique et se laissa investir par le Saïdar. Sans être submergé, mais en absorbant une quantité suffisante pour que l'entraînement soit valide. Canaliser était un travail harassant. Plus on puisait de pouvoir dans la source, et plus ça se révélait fatigant. Même avec les limites qu'elle s'était fixées, Moiraine vibra soudain de joie, comme si elle exultait. Une extase qui n'était pas très loin d'une torture. Lors de ses premières expériences avec le Saïdar, elle ne savait jamais si elle devait rire aux éclats ou pleurer à chaudes larmes. Elle éprouva le besoin impérieux de puiser plus de pouvoir dans la source. Y résister ne fut pas simple, comme toujours. À ces moments-là, tous ses sens s'affûtaient. En tendant l'oreille, elle pouvait presque entendre les battements de cœur de Siouan. L'air qui circulait sur son visage et ses mains lui semblait une caresse, et les rayures de la robe de son ami lui paraissaient 2 fois plus vives que d'habitude, occultant le fond blanc du vêtement. Sans même tendre le cou, elle voyait des craquelures dans les lambris, qu'elle n'aurait sans doute pas remarquées en collant le nez contre le bois. Lorsque le pouvoir déferlait en elle, la jeune femme, comme grisée, se sentait plus vivante que jamais. Dans un coin de sa tête, elle aurait aimé être unie en permanence au Saïdar. Un désir dangereux, car il risquait d'inciter une femme à puiser toujours plus de pouvoir dans la source. Un jour, on dépassait ses capacités, et on y perdait la vie. Ou on détruisait son aptitude à canaliser, ce qui était encore pire, car être privé de cette extase devait être un sort plus cruel que la mort. Siouan s'assit, l'aura du pouvoir l'enveloppant. Bien entendu, Moiraine ne pouvait pas voir la lueur qui brillait également autour d'elle. Alors qu'elle tissait une protection sonore afin d'isoler la chambre du reste du monde, Siouan la configura de façon à n'avoir pas à la maintenir. S'occuper de 2 flux simultanément faisait bien plus que doubler la fatigue subséquente. En gérer 3 se révélait au moins 2 fois plus éprouvant, et au-delà, le verbe « épuiser » ne suffisait plus à décrire ce qu'on ressentait, même si l'exploit restait réalisable dans certaines conditions. Siouan fit signe à Moiraine de lui tourner le dos. Non sans avoir froncé les sourcils, histoire de manifester sa surprise au sujet de la protection, la jeune femme obéit. Si elle voyait les tissages que Siouan préparait pour la perturber, il lui serait trop facile de se défendre. Mais pourquoi se préserver des oreilles indiscrètes? Avec cette protection, une personne plaquée contre le battant de la porte n'entendrait rien si Moiraine criait à s'en casser les cordes vocales. Mais Siouan ne pouvait pas préméditer de lui arracher de tels cris. Non, ça devait faire partie de sa stratégie de déconcentration. Pour commencer, elle la forçait à se poser des questions, semant le doute dans son esprit. Moiraine sentit que son ami tissait des flux de terre et d'air, d'eau et d'esprit, et de terre et d'esprit. Elle changeait en permanence, et à toute vitesse. Sans la regarder, Moiraine ne pouvait pas dire s'il s'agissait d'un véritable tissage ou de manœuvre pour la désorienter encore plus. Inspirant à fond, elle se força au calme. Très complexe, bon nombre de tissages intégrés à l'épreuve étaient en réalité exclusivement réservés à cette occasion. Très bizarrement, et à l'inverse de beaucoup d'autres, ces invocations ne nécessitaient aucun geste. À dire vrai, les mouvements ne faisaient pas vraiment partie du tissage. Mais si on les omettait lorsqu'ils étaient requis, on n'obtenait aucun résultat tangible. Selon certaines théories, la gestuelle permettait d'ouvrir des chemins bien particuliers dans l'esprit de l'Aes Sedai. Dans le cas de l'épreuve, on semblait pouvoir se passer de ses mains le plus clair du temps, et c'était inquiétant. Mais il y avait une autre bizarrerie. Ces tissages incroyablement compliqués n'avaient aucun effet. Et même si on se trompait, il ne pouvait pas y avoir de conséquences dangereuses. Très dangereuses en tout cas. Une caractéristique remarquable, car beaucoup de flux, même les plus simples, provoquaient des catastrophes lorsqu'on commettait la plus infime erreur. Des acceptés avaient péri pendant l'épreuve, mais jamais parce qu'elles avaient saboté un tissage. Cela dit, lorsqu'on ratait le premier, ça produisait un boucan de fin du monde. Moiraine canalisa de très petits flux d'air et les tissa délicatement. C'était une configuration très basique, mais, si petits que soient les fils, on ne pouvait jamais brutaliser le Saïdar. Comme une rivière, le pouvoir coulait inexorablement vers l'aval. Si on essayait d'aller contre le courant, on finissait emporté par les flots, telle une brindille dans un torrent. Pour canaliser, il fallait savoir utiliser la force de cette rivière tumultueuse, afin de la guider dans la direction souhaitée. Dans le cadre de l'épreuve, la taille du tissage n'était pas imposée. Plus on faisait petit, et moins on y laissait d'énergie. En outre, le bruit serait moins fort si Siouan réussissait à...
Moiraine, tu crois que les sœurs rouges réussiront à se contraindre à lui ficher la paix?
Moiraine sursauta avant même que son tissage produise un boom équivalent à celui d'une timbale. Lorsqu'elle rencontrait un homme capable de canaliser, n'importe quelle sœur était censée s'en occuper. Mais l'Aja Rouge se consacrait exclusivement à traquer ses mâles. Siouan parlait du nouveau-né, et ça expliquait la protection, voire le discours sur le viol des règles. Au fond, Siouan n'était pas certaine que Tamra ne se formaliserait pas qu'elle parle ensemble de l'enfant. Moiraine jeta un regard furieux par-dessus son épaule. « Ne t'arrête pas, » dit calmement Siouan. Elle canalisait toujours, mais se contentait de maintenir les flux, sans en ajouter.
« Si tu rates ce tissage-là, c'est que tu as vraiment besoin d'exercice. Alors, ta réponse au sujet des sœurs rouges ?»
Cette fois, le tissage de Moiraine produisit un disque bleu-argent de la taille d'une petite pièce de monnaie. Quand il tomba dans la paume de la jeune femme, elle s'étonna pour la énième fois que la forme du construct ne soit pas davantage imposée que sa taille. Cela dit, les balles et les disques étaient les formes les plus simples. Tissé à partir de l'air et pourtant dur comme de l'acier, l'objet était un peu froid. Lorsque Moiraine abandonna le flux, sa pièce se volatilisa, laissant derrière elle un infime résidu de pouvoir qui ne tarderait pas à disparaître aussi. La prochaine figure imposée, très complexe, nécessitait de recourir aux 5 pouvoirs en même temps. Moiraine répondit pourtant tout en invoquant, car enfin, elle était capable de canaliser pendant une conversation. Air et feu, puis terre, puis esprit et eau, et de nouveau air. Maintenant qu'elle avait commencé, pas question de s'interrompre. Pour une raison inconnue, il était impossible de maintenir longtemps les tissages inachevés, qui se transformaient en quelque chose de totalement différent. Esprit, puis feu et terre simultanément.
Elles auront 20 ans pour s'y préparer. Ou un peu moins dans le pire des cas. Et bien plus dans le meilleur.
Lorsqu'elles naissaient avec l'étincelle, les filles commençaient parfois, mais rarement, à canaliser vers 12 ou 13 ans. Même nées avec l'étincelle, les garçons ne s'y mettaient jamais avant 18 ou 19 ans, en tout cas de manière spontanée. Chez certains hommes, l'étincelle ne se manifestait pas avant qu'ils aient fêté leur 30e anniversaire. De nouveau l'air, puis l'esprit et l'eau, dans une configuration bien précise.
Et puis, il s'agira du dragon réincarné. Les sœurs rouges elles-mêmes comprendront qu'il ne peut pas être apaisé avant d'avoir livré l'ultime bataille.
Un destin cruel. Sauver le monde, si c'était possible, et en récompense être coupé du pouvoir. Mais les prophéties ignoraient la pitié et faisaient la sourde oreille aux prières des hommes. De l'air, encore une fois, puis du feu, et de nouveau de l'air. Le tissage commençait à ressembler à un nœud inextricable.
« Tu y crois vraiment ?» demanda Siouan.
« J'ai entendu dire que certaines sœurs rouges ne faisaient pas beaucoup d'efforts pour maintenir ce malheureux en vie. »
Moiraine avait également entendu cette théorie, mais elle la tenait pour une rumeur. En tout état de cause, c'était contraire aux lois de la Tour Blanche. Pour ça, une sœur risquait de recevoir le fouet, puis d'être exilée dans une ferme isolée afin d'avoir tout le temps de réfléchir à ses actes. Ce crime aurait même dû être considéré comme un meurtre. Sachant quels dégâts pouvaient faire ces hommes quand on leur laissait la bride sur le cou, Moiraine ne s'étonnait pas trop que ce ne soit pas le cas. Plus d'esprit, puis des flux d'air entrelacés. Des doigts invisibles semblèrent soudain courir sur les flancs de Moiraine. Elle était chatouilleuse, Siouan le savait, mais pour la déconcentrer, il faudrait trouver mieux que ça. Déterminée à ne pas faiblir, elle sursauta à peine.
Comme quelqu'un me l'a dit récemment, il faut apprendre à vivre avec ce qu'on ne peut pas changer. La roue du temps tisse comme elle l'entend, et les ajats font ce qui leur chante.
Un peu plus d'air, puis encore du feu, suivi par une séquence d'eau, de terre et d'esprit. Puis les 5 en même temps. Au nom de la lumière, quel méli-mélo! Et ce n'était pas encore terminé.
Selon moi, commença Siouan.
La porte s'ouvrit à la volée, laissant entrer un air glacial qui balaya d'un coup toute la chaleur de la cheminée. Ses sens aiguisés par le saïdar, Moiraine eut le sentiment d'être soudain couverte de givre de la tête aux pieds. La porte laissa également entrer Mirelle Berengari, une acceptée originaire d'Altara qui avait obtenu la bague au serpent la même année que les deux amis. Très belle, le teint olive et presque aussi grande que Siouan, Mirelle était très sociable, mais également lunatique. Dotée d'un redoutable sens de l'humour, elle pouvait exploser plus violemment encore que Moiraine, à certaines occasions. Encore novice, les deux jeunes femmes avaient échangé de vifs propos qui leur avaient valu la badine à toutes les deux. Puis, au fil du temps, elles étaient devenues amies. Même si cette amitié était moins profonde que son lien avec Siouan, Moiraine appréciait Mirelle, et cela l'empêcha de lui passer un savon parce qu'elle était entrée sans frapper, ou en tout cas sans y être invitée. Avec la protection, si elle avait toqué, il aurait de toute façon été impossible de l'entendre. Au fond, tout ça ne comptait pas tellement. Sauf qu'il y avait quand même des règles à respecter.
« Combien de temps avant l'ultime bataille, selon toi ?»
demanda Mirelle en refermant la porte.
Voyant le tissage incomplet devant Moiraine et la protection autour de la porte, elle eut un petit sourire.
« Vous vous entraînez dur, je vois. Siouan, l'as-tu fait crier ? Je peux t'aider si tu veux. Je connais un moyen de la faire couiner comme un goré pris dans un filet. »
Moiraine dissipa le tissage avant qu'il fasse des siennes, puis elle échangea un regard interloqué avec Siouan. Comment Mirelle pouvait-elle savoir ?
« Je ne couine pas comme... eh bien, comme tu dis. »
Une façon de gagner du temps. Les farces des acceptés visaient prioritairement les autres acceptés, et Mirelle avait à elle seule un palmarès presque aussi fourni que celui des deux amis réunis. La blague qu'elle évoquait avait nécessité l'utilisation de glace au cœur d'un été si caniculaire qu'on fondait même à l'ombre. Mais Moiraine n'avait pas couiné comme un goré. Elle en était sûre.
« De quoi parles-tu, Mirelle ?» demanda Siouan.
« Eh bien, des aïels, évidemment. De quoi d'autre pourrais-je parler ?»
Moiraine et Siouan échangèrent un autre regard, chagriné celui-là. Un certain nombre de sœurs affirmaient que plusieurs passages des prophéties du dragon faisaient référence aux aïels. Hélas, un nombre au moins égal d'Aes Sedai prétendait le contraire. Au début de la guerre, il y avait eu à ce sujet des débats plutôt brûlants. Ailleurs qu'à la Tour Blanche, on aurait probablement parlé d'une foire d'empoigne. Mais avec ce qu'elle venait d'apprendre, tout ça n'avait plus le moindre sens pour Moiraine et Siouan. À partir de maintenant, dissimuler leurs connaissances serait extrêmement difficile.
« Vous avez un secret, pas vrai ?»
lança Mirelle.
« Je ne connais pas de pire cachotière que vous. N'espérez pas que je vous presse de questions, parce que je ne le ferai pas. »
À voir son expression, Mirelle crevait d'envie d'interroger ses deux amis.
« Ce n'est pas à nous de te le dire, » répondit Siouan.
Moiraine ne put pas se retenir de froncer les sourcils. Où voulait en venir Siouan ? Tentait-elle de jouer au Dice Daimar ? Depuis qu'elles étaient liées, Moiraine avait essayé de lui expliquer les règles du grand jeu des maisons nobles. Au Kairien, même les domestiques et les fermiers savaient intriguer dans l'ombre et saboter les plans de leurs adversaires. Dans ce pays, les nobles et les gens du peuple vivaient pour le grand jeu. Mais celui-ci était pratiqué partout dans le monde, même dans des royaumes qui prétendaient le mépriser. Malgré tous les efforts de Moiraine, Siouan n'avait jamais fait montre de beaucoup d'aptitude pour le grand jeu.
« Cela dit, » continua Siouan, « tu peux m'aider à entraîner Moiraine. »
Que se passait-il ? Jusque-là, les deux amis s'étaient toujours entraînés ensemble, sans tierce personne.
« Elle commence à connaître trop bien mes trucs. »
Mirelle sourit, se frotta joyeusement les mains et s'assit dans le second fauteuil. Puis l'aura du pouvoir l'enveloppa. Morose, Moiraine se détourna de nouveau et voulut s'attaquer au deuxième tissage.
« Recommence à partir du début, » dit Siouan. « Tu sais aussi bien que moi que c'est nécessaire. L'ordre des invocations doit être gravé dans ton esprit, pour que rien ne puisse venir te perturber. »
Non sans soupirer, Moiraine fit de nouveau apparaître la pièce de monnaie bleu-argent, puis elle passa à la suite. Siouan n'avait pas tout à fait tort. À force, sa victime parvenait à prévoir ses trucs. Par exemple, elle aimait recourir au chatouiller au moment les plus incongrus. Elle multipliait aussi les petits coups d'index invisibles à des endroits désagréables, les caresses embarrassantes et les bruits bizarres dans les oreilles. À cet arsenal, elle ajoutait l'art de dire les choses les plus choquantes. Et même si les sœurs l'avaient éduquée, son langage restait très imaginatif et évocateur lorsqu'il le fallait. Cela dit, connaître les astuces et techniques d'une compagne d'entraînement n'aidait pas beaucoup à conserver sa concentration et son calme. À cause des assauts de Siouan, Moiraine dut s'y reprendre à deux fois avec son tissage. Mirelle se révéla encore plus nuisible. Elle adorait la glace, une matière assez facile à produire quand on savait combiner l'eau et le feu pour la faire apparaître de nulle part. Cependant, Moiraine aurait payé cher pour savoir comment on réussissait à produire de la glace dans la robe d'une autre femme et aux endroits les plus gênants. Mirelle savait aussi canaliser des flux qui se transformaient en pincements ou en élancements, comme si sa victime avait reçu la badine. De temps en temps, elle y ajoutait l'équivalent d'un bon coup de ceinture sur les fesses. Les coups étaient bien réels, et ils laissaient des cicatrices très concrètes. Utilisant des cordes d'air, Mirelle fit léviter sa cible un bon pied au-dessus du sol. Siouan ne lui ayant jamais infligé cela, Moiraine ne la soupçonna pas un instant d'être la farceuse. La situation se corsa lorsque Mirelle, faisant tourner sa victime dans l'air, la positionna la tête en bas et les pieds en haut, sa robe lui tombant sur les épaules. Le cœur battant la chamade et la moutarde lui montant au nez, Moiraine tira sur la robe pour se dégager le visage. La pudeur n'avait rien à voir dans l'affaire, elle devait continuer à tisser. S'il était possible de maintenir un flux sans le voir, l'invoquer à l'aveugle était hors de question. Si le tissage combinant les cinq pouvoirs faisait long feu, la jeune femme recevrait une secousse. Le genre de choc qu'on encaissait quand on marchait pieds nus sur un tapis, puis qu'on touchait du métal, mais en trois fois plus fort et plus désagréable. Redoublant ses efforts, Moiraine réussit à aller au bout du tissage. Mais Mirelle parvint à briser sa concentration à quatre reprises. Moiraine en conçut une vive irritation. pas contre sa camarade, mais contre elle-même. Car toutes les acceptées étaient d'accord sur un point. Quoi que puissent vous faire vos amis, ça ne serait jamais pire que les tourments imaginés par les sœurs pour corser l'ultime épreuve. Du coup, de véritables amis se forçaient à infliger à la candidate d'affreux tourments qui pouvaient aller très loin, à condition de ne pas blesser ou tuer, bien entendu. Si Xuan et Mirelle avaient pu la faire échouer 6 fois en si peu de temps, comment pouvait-elle espérer triompher de l'épreuve? Mais il ne fallait pas baisser les bras. Elle réussirait, et du premier coup, comme elle se l'était juré. Alors qu'elle recommençait le deuxième tissage, la porte s'ouvrit de nouveau. À contre-cœur, Moiraine abandonna ses flux et se coupa du saïdar. Ce n'était jamais un moment plaisant, car la vie semblait vous fuir en même temps que le pouvoir, et le monde devenait terne. Mais elle devait donner un cours, et elle n'aurait pas le temps d'en terminer avant. Les acceptés n'avaient pas le droit d'avoir une horloge. De toute façon, la plupart n'auraient pas eu les moyens de se l'offrir. Le gong qui sonnait les heures n'était pas audible partout dans la tour. Il était recommandé de développer un sens du temps infaillible, car les acceptés, tout autant que les novices, étaient tenus à la ponctualité. La femme debout dans l'encadrement de la porte n'était pas une amie. Plus grande que Xuan, Tarna Fair venait du nord d'Altara, près du royaume d'Andorre, mais ses cheveux blonds n'étaient pas tout ce qui la distinguait de Mirelle. En principe, les acceptés ne devaient pas se montrer arrogantes. Croiser le regard bleu glacial de Tarna suffisait à savoir qu'elle se contrefichait de cette règle. Totalement dépourvue de sens de l'humour, elle n'avait jamais fait de farce à quiconque. Après 9 ans de noviciat, elle avait obtenu la bague 1 an avant Xuan et Moiraine. Solitaire quand elle était novice, elle n'avait guère plus d'amis en tant qu'acceptée, et ça ne semblait pas lui poser de problème. Bref, une personne radicalement différente de Mirelle.
« J'aurais dû m'attendre à vous trouver ensemble, toutes les deux, »
dit-elle. Un vrai glaçon, comme d'habitude.
« Je me demande pourquoi vous n'emménagez pas dans la même chambre. Et toi, Mirelle, te voilà dans la coterie de Xuan ?»
Tout cela dit d'un ton neutre, comme s'il n'y avait aucune intention malveillante. Pourtant, Mirelle réagit au quart de tour. Si Laura n'enveloppait plus Xuan, elle ne s'était pas coupée de la source. Et Tarna prenait peut-être un risque inconsidéré en la provoquant.
« Laisse-nous, Tarna, »
dit Xuan avec un petit geste visant à congédier l'importune.
« Nous sommes occupés, et ferme la porte derrière toi. »
L'intruse ne broncha pas.
« J'ai mon cours à donner, »
dit Moiraine à Xuan, ignorant superbement Tarna.
« Mes novices apprennent à invoquer des sphères de feu, et si je n'arrive pas, l'une d'elles essaiera quand même, au risque de se brûler. »
Les novices avaient interdiction absolue de canaliser le pouvoir hors de la présence d'une sœur ou d'une acceptée. Mais dès qu'on leur en laissait l'occasion, elles oubliaient allègrement cette règle. Les nouvelles ne croyaient pas vraiment que c'était dangereux, et les plus anciennes se pensaient assez habiles pour ne pas courir de gros risques.
« Les novices ont un jour de vacances, »
dit Tarna.
« Pas de cours à donner aujourd'hui. »
Qu'on la congédie ou qu'on l'ignore ne la dérangeait pas. Rien ne la perturbait, à vrai dire. Sans l'ombre d'un doute, elle réussirait l'épreuve du premier coup.
Les acceptés sont convoqués dans le hall de réunion ovale. La chère d'Amirline va s'adresser à nous. Encore une chose que vous devez savoir, Jitara vient de mourir.
Laura, qui enveloppait Mirelle, vacilla.
C'était ça, votre secret?
S'écria-t-elle. Elle semblait encore plus indignée que lors de l'intrusion de Tarna.
Ne t'ai-je pas dit qu'il ne nous appartenait pas de t'en parler?
Répondit Xuan. Une réplique digne d'une Aes Sedai. Et suffisante pour forcer Mirelle à en rabattre, même à contre-cœur. Le genre de capitulation dont il fallait se méfier. Toujours courroucée, la jeune femme leur réservait sûrement un chien de sa chienne, à base de glace, aurait parié Moiraine. Tenant toujours la porte ouverte, comme si elle était immunisée contre le froid, à l'instar d'une sœur, Tarna dévisagea un moment Xuan et Moiraine.
C'est vrai, vous étiez là quand c'est arrivé. Que s'est-il passé? Nous avons simplement appris la mort de la gardienne des chroniques. Je lui tendais une tasse d'infusion quand elle a poussé un petit cri, avant de tomber raide morte dans mes bras,
dit Moiraine. Encore mieux que ce qu'avait fait Xuan en matière de réponse d'Aes Sedai. Pas un mot de faux et pourtant aucun rapport avec la vérité. À la grande surprise de Moiraine, une sincère tristesse passa dans le regard de Tarna. Fugitivement, certes, mais il n'en restait pas moins que c'était vrai. Taillée dans le marbre, Tarna avait pourtant la réputation de ne jamais montrer ses sentiments.
Jitara Sedai était une femme de grande qualité,
dit-elle.
Quelqu'un qui nous manquera beaucoup. Pourquoi la chère d'Amirline veut-elle nous parler?
Demanda Moiraine. La mort de Jitara était déjà connue, et ses funérailles, selon la coutume, auraient lieu le lendemain. Il n'y avait donc rien à annoncer,
puisque Tamra n'avait sûrement pas l'intention d'évoquer l'ultime prédiction de sa gardienne.
« Je n'en sais rien, »
dit Tarna, redevenue de marbre.
« Mais je suis déjà resté trop longtemps avec vous. L'ordre est de gagner la salle ovale le plus vite possible. En nous dépêchant, nous arriverons avant Tamra. »
Dans la perspective du jour où elles obtiendraient le châle, les acceptées devaient rester dignes en toutes circonstances. Sauf pour obéir à leur dirigeante, elles n'étaient jamais censées se dépêcher. Mais là, on était justement dans une situation exceptionnelle. Les quatre femmes coururent, Tarna elle-même relevant l'ourlet de sa robe et se fichant des regards interloqués d'une poignée de domestiques. Les sœurs ne faisaient jamais attendre la chair d'Améline. Les acceptées, elles, ne devaient même pas y penser. Avec son dôme peint à la couleur du ciel et rehaussé de quelques nuages blancs et la frise de moulure qui en faisait tout le tour, la salle ovale ne servait plus beaucoup depuis que la tour se dépeuplait. Alors que Moiraine et ses trois compagnes y entrèrent bonne dernière, les rangées de bancs en bois verni étaient aux trois quarts vides. Le brouhaha des conversations, les acceptés échangeant des hypothèses sur la raison de cette réunion, noyés dans l'espace, soulignait à quel point les choses s'étaient dégradées. Si rien ne se passait, la tour blanche finirait par... Non, ce n'était pas le moment de ruminer de sombres idées. L'estrade qui se dressait au fond de la salle était toujours vide. Soulagés de ne pas être vraiment en retard, Moiraine et Suan s'assirent au dernier rang occupé. Tarna prit place à côté d'elle, mais en faisant mine de ne pas les connaître. Toujours furieuse que ses amis ne lui aient rien dit à propos de Jitara, Mirelle alla s'asseoir à l'autre bout de la rangée. Dans la salle, la moitié des femmes parlaient en même temps. Du coup, pas moyen de comprendre ce qu'elles disaient. De toute façon, les quelques mots que saisirent Moiraine lui parurent d'une stupidité crasse. Toutes les acceptées passant l'épreuve en même temps? Ici et maintenant? Alédrine devait délirer de fièvre pour proférer des âneries pareilles, mais elle avait toujours eu tendance à s'emballer. Brendas était encore plus excitée. Pourtant raisonnable en temps normal, elle affirmait que toutes les novices et les acceptées allaient être renvoyées chez elle, parce que Jitara avait prédit la fin de la tour blanche, voire celle du monde tant qu'on y était. Avant midi, des dizaines de rumeurs sur la dernière prédiction de Jitara couraient dans les couloirs de la tour. S'il n'y en avait pas déjà des centaines, parce que les ragots, parmi les acceptés, s'épanouissaient aussi vite et aussi bien que des roses dans une serre. Quoi qu'il en soit, Moiraine n'aimait pas du tout ça. Pour garder leur secret, Suan et elle allaient devoir maquiller quelque peu la vérité, jusqu'à ce que les choses se calment. Elle espérait être à la hauteur du défi, sans en avoir la certitude.
« Quelqu'un sait quelque chose ?» demanda Suan à l'accepter assise à ses côtés. « Où n'est-ce que du vent ?»
La femme à la peau noire et aux longs cheveux raides se tourna vers Suan, la regarda, ses mains couvertes de tatouages posées sur les genoux, puis souffla.
« Du vent, je dirais. »
Zemai ne se départait jamais d'un certain quant à soi. Encline à prendre son temps avant d'agir, elle avait toutes les qualités qu'on attendait d'une sœur marron. Ou blanche, peut-être. Et tout laissait penser qu'elle choisirait un de ces deux ajats. Membre du peuple de la mer, les Hata admirés, elle était un vrai sujet de curiosité dans la tour. Quatre Aes Sedai seulement partageaient ses origines. Toutes appartenaient à l'aja marron, et deux d'entre elles étaient presque aussi vieilles que la défunte Jitara. Les filles Hata admirées ne venaient jamais à la tour, sauf si elles possédaient l'étincelle ou parvenaient à apprendre seules les bases du pouvoir. Dans ces deux cas, une délégation d'Ata admirée confiait la gamine aux Aes Sedai et repartait à la vitesse du vent. Le peuple de la mer détestait s'éloigner de l'eau salée. À Tarvalon, on se trouvait à 400 bonnes lieues de la plus proche côte. Zemai semblait vouloir oublier ses origines. À tout le moins, elle ne parlait jamais du peuple de la mer, sauf quand une Aes Sedai l'interrogeait. Pleine de détermination, elle se concentrait depuis son arrivée sur un seul objectif, obtenir le châle. Hélas, elle n'était pas très rapide à apprendre. Pas vraiment très lente, mais beaucoup moins réceptive que Suan, par exemple. Après 10 ans de noviciat et 8 ans dans la robe d'une acceptée, Moiraine l'avait vu rater un tissage encore et encore, jusqu'au moment où, sans raison apparente, elle le réussissait à la perfection. Du coup, ses échecs précédents paraissaient incompréhensibles. Mais chacune progressait à son rythme, et la tour respectait les particularités des aspirantes. Une acceptée de grande taille, assise un rang en avant, se tourna vers Suan. Aisling Noon, d'habitude plutôt calme, avait du mal à contenir son excitation.
« Nous sommes là à cause de la prédiction, » dit-elle. « Jitara en a fait une avant de mourir, et la chair d'Amerlin veut nous dire de quoi il s'agissait. Suan et Moiraine, vous étiez là quand la gardienne est morte ce matin. Qu'a-t-elle dit ?»
Suan se raidit et Moiraine ouvrit la bouche pour mentir, mais Tarna la sauva.
« Aisling, Moiraine affirme que Jitara n'a rien dit. Quant à la chair d'Amerlin, nous saurons très bientôt ce qu'elle nous veut. »
Tarna parlait d'une voix neutre, comme d'habitude, mais pas d'un ton sec. Aisling se détourna pourtant, folle de rage. elle aussi était un oiseau rare au sein de la tour. Une Dzingara. Les gens de la route, son peuple, vivaient dans des roulottes aux couleurs criardes et voyageaient de village en village. Comme le peuple de la mer, ils n'aimaient pas que les naturels leur traînent dans les jambes. Quand un clan en découvrait une, ils prenaient aussitôt la route de Tarvalon. Vérine, une sœur marron encore plus petite que Moiraine, affirmait que les Dzingara n'essayaient jamais d'apprendre à canaliser de leur propre chef. Le pouvoir ne les intéressait pas, et elles n'avaient aucune envie de devenir une Aes Sedai. Puisque Vérine le disait, ça devait être vrai. Faisant exception à la règle, Aisling travaillait d'arrache-pied, comme Dzemai, mais avec plus de succès. Elle avait obtenu la bague en 5 ans, la même promotion que Moiraine et Siouan, et tout laissait penser qu'elle serait prête pour le châle d'ici à 1 année, et peut-être même avant. Une porte s'ouvrit soudain derrière l'estrade. Tamra la franchit, toujours vêtue de la robe bleue qu'elle portait durant la nuit, et son étole posée sur les épaules. L'ayant vue avant tout le monde, Moiraine fut la première à se lever, mais les autres femmes ne furent pas longues à l'imiter. Voir Tamra seule avait quelque chose d'étrange. Lorsqu'on la croisait dans un couloir, elle était toujours accompagnée de quelques sœurs. Des Aes Sedai ordinaires venaient lui présenter une pétition, ou des représentantes qui s'entretenaient avec elle d'affaires politiques avant une réunion du hall de la tour. Moiraine eut l'impression que Tamra était épuisée. Elle se tenait bien droite et gardait un visage de marbre, mais il y avait dans son regard une lassitude qui ne venait pas du manque de sommeil.
« Avant de remercier ceux qui ont assuré la sécurité de Tarvalon, » dit-elle d'une voix qui portait sans peine dans toute la salle, « j'ai décidé que la Tour Blanche offrirait une prime de 100 couronnes d'or à chaque femme qui aura donné la vie à un enfant entre le jour de l'arrivée du premier soldat et celui où la menace sera dissipée. Des héros annoncent cette nouvelle dans les rues, en ce moment même. »
Aucune acceptée n'aurait songé à interrompre Tamra. Il y eut pourtant quelques murmures, et Siouan y joignit sa voix. En fait, elle émit un grognement, comme elle en avait l'habitude. De sa vie, elle n'avait jamais vu 10 couronnes d'or en même temps. Alors 100, il y avait de quoi acheter une ferme magnifique, ou plusieurs bateaux de pêche. Ignorant ce petit manquement au protocole, Tamra enchaîna.
« Comme certaines d'entre vous doivent le savoir, une armée est toujours accompagnée par des civils. Parfois, il y en a même plus que de soldats. Ce sont des artisans le plus souvent. Des armuriers, des fabricants de flèches, des maréchaux ferrants, des cuisiniers et des réparateurs de roues de chariots. Il y a aussi les épouses des soldats et... d'autres femmes. L'armée tenant lieu de bouclier à Tarvalon, je juge équitable que ces femmes-là bénéficient aussi de la prime. »
S'avisant qu'elle se mordait la lèvre inférieure, Moiraine se força à s'arrêter. Une sale habitude dont elle tentait de se débarrasser. Pourquoi faire savoir à tout le monde qu'on était en train de réfléchir? Au moins, les acceptés savaient désormais ce que leur voulait Tamra. À l'évidence, elle pensait que l'enfant naîtrait très bientôt. Mais pourquoi le dire aux acceptés?
La menace risque de ne pas se dissiper très vite, continua la chère d'Amirline. Cela dit, on murmure que les Aiel seraient sur le point de se retirer. Quoi qu'il en soit, nous semblons suffisamment en sécurité pour commencer à collecter des noms, au moins dans les camps les plus proches de la ville. Pour être juste avec ces femmes, nous devons nous y mettre très vite, avant que certaines s'en soient allées. Si les Aiel partent vraiment, ça arrivera, puisque pas mal de soldats les suivront, d'autres s'en retournant enfin chez eux. Aucune sœur n'étant revenue à la tour, c'est vous que je vais charger du recensement. Comme quelques femmes vous glisseront entre les doigts, renseignez-vous au sujet de celles qui ont accouché et sont à présent introuvables. Notez tous les détails qui pourraient permettre de les retrouver. Le nom du père, leur village ou leur ville d'origine, le pays d'où elles viennent. Afin qu'on ne vous ennuie pas, chacune de vous sera accompagnée par 4 gardes de la tour.
Moiraine réussit à ne pas parler, mais elle manqua de s'étouffer. Des femmes moins douées qu'elle laissèrent échapper un cri de surprise. Les acceptés avaient très rarement le droit de quitter la ville, mais sans une sœur pour les surveiller, c'était du jamais vu. Avec un sourire indulgent, Tamra attendit que le calme revienne. Consciente d'avoir surpris son auditoire, elle sembla aussi entendre une remarque que Moiraine n'avait pas captée.
« Si j'entends dire que l'une d'entre vous a utilisé le pouvoir pour se défendre, Alana, la coupable aura beaucoup de mal à s'asseoir après son passage dans le bureau de la maîtresse des novices. »
Encore troublés, quelques acceptés se laissèrent aller à glousser, et 2 éclatèrent même de rire. De nature réservée et douce, Alana faisait des efforts inhumains pour devenir féroce et redoutable. Elle clamait aux 4 vents qu'elle voulait rejoindre l'âge à vert, l'ordre guerrier, et avoir 10 champions. Seules les sœurs vertes en avaient plus d'un, mais aucune n'en possédait autant. Le goût de l'exagération d'Alana, comme toujours. Tamra tapa dans ses mains pour ramener le silence. Son indulgence avait des limites très rapidement atteintes.
Vous serez très prudente et écouterez les soldats qui vous escorteront.
plus personne ne rit. La chair d'Amirline ne tolérait pas que des têtes couronnées prennent ses ordres à la légère. Alors de vulgaires acceptés.
Hors de Tarvalon, les Aiel ne sont pas le seul danger. Si des gens vous prennent pour des Aes Sedai, ne les détrompez pas. Mais n'allez pas jusqu'à mentir sur votre statut actuel.
Nul ne broncha. Usurper l'identité d'une Aes Sedai allait à l'encontre d'une des lois les plus sacrées de la Tour Blanche, au point de s'appliquer à des femmes qui ne lui étaient pas le moins du monde liées.
Certains ruffians verront simplement un joli visage de femme, et sans votre escorte, ils risqueraient de vous prendre pour des proies faciles. Mieux vaut leur épargner toute tentation et rester loin des problèmes. N'oubliez pas non plus qu'il y a des fils de la lumière dans l'armée. Ceux-là savent reconnaître une robe d'acceptée. Et quand ils ont la possibilité de la prendre pour cible par derrière avec leur arc, ça leur plaît autant que de tirer sur une Aes Sedai.
Il semblait impossible que le silence devienne plus pesant. Pourtant, le miracle s'accomplit. Moiraine aurait pu entendre respirer les autres femmes, si l'une d'elles avait osé se remplir d'air les poumons. Quand une Aes Sedai s'aventurait hors de la tour et disparaissait, on pensait avant tout à une rencontre malheureuse avec des capes blanches. Ces fanatiques traitaient les Aes Sedai de suppôts des ténèbres, et ils affirmaient que manipuler le pouvoir était un crime passible de la peine capitale, une sentence dont ils voulaient bien se charger, si on le leur demandait. Du coup, personne, en tout cas parmi les acceptés, ne comprenait pourquoi les fils étaient venus défendre Tarvalon. La chair d'Amirline balaya son auditoire du regard, l'air satisfaite que ses avertissements ne soient pas tombés dans l'oreille d'une congrégation de sourdes.
« Des chevaux vous attendent dans les écuries ouest. Dans les sacoches de sel, vous trouverez de quoi manger à midi. » Et tout ce dont vous aurez besoin. Filez dans vos chambres, changez de chaussures et prenez vos capes de voyage. La journée sera longue et très froide. Que la lumière veille sur vous. »
Une façon de congédier les jeunes femmes, qui s'inclinèrent et se détournèrent. Mais leur dirigeante ajouta quelque chose qui semblait venir de lui traverser l'esprit.
« Quand vous noterez le nom d'une femme, enregistrez aussi celui de l'enfant, le jour et le lieu de sa naissance. Les archives de la tour doivent être complètes. À présent, filez. »
Du grand art, comme si ce qu'elle avait dit à la fin, manquant presque de l'oublier, n'avait pas été la partie la plus importante de son discours. C'était en procédant ainsi que les Aes Sedai cachaient leurs secrets aux yeux de tous. Selon certains, elles avaient inventé le grand jeu. Moiraine ne put s'empêcher d'échanger des regards excités avec Siouan. Bien qu'elle abominât le travail administratif, son amie affichait un grand sourire. Elles allaient participer à la recherche du dragon réincarné. Leur mission était de découvrir son nom et celui de sa mère, rien de plus. Mais cela constituait déjà une aventure dont une acceptée, en temps normal, ne pouvait même pas rêver.